VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mardi 23 janvier 2018, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
Plus de 140 personnes arrêtées hier à N'Djamena lors de protestations dans la capitale tchadienne.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, veut des enquêtes après la mort de 6 manifestants dimanche en République démocratique du Congo.
En Afrique du Sud, l'ANC au pouvoir confirme avoir discuté du départ anticipé du président Jacob Zuma.
Ici aux États-Unis, réouverture aujourd'hui du gouvernement fédéral après un shutdown de 3 jours.
Le vice-président américain Mike Pence annonce que le transfert à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis en Israël aura lieu avant fin 2019.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Tchad, la police a dit avoir arrêté une centaine de personnes pour troubles à l'ordre public et destruction de biens, et ce à la suite d'une grève massive des transporteurs et d'une manifestation de lycéens hier à N'Djamena, la capitale. Des détails avec Morgane Guiriec.
Les transporteurs tchadiens ont décidé hier après-midi de lever leur mot d'ordre de grève. Nous allons reprendre les négociations avec le gouvernement jusqu'au 10 février au plus tard. Si rien ne bouge, la grève reprendra, a déclaré Abakar Daoud Adoum, secrétaire général du syndicat des transporteurs. Il a aussi annoncé la libération de 15 transporteurs qui avaient été interpellés hier. Les chauffeurs de taxi, de bus et les agences de voyage ont entamé ce débrayage hier pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Des lycéens ont suivi ce mouvement avant d'être dispersés par la police qui a annoncé l'arrestation de 143 personnes dont 64 élèves. Selon le porte-parole de la police, 10 véhicules ont été endommagés, dont 4 véhicules de la police, en marge de ces violentes manifestations. Des organisations de la société civile ont appelé une marche le jeudi 25 janvier pour protester contre les mesures d'austérité et la hausse du prix du carburant.
Le secrétaire général de l'ONU demande des enquêtes après la mort de 6 personnes dans des manifestations en République démocratique du Congo et la secrétaire générale de la francophonie a condamné hier l'usage de la force. La nonciature apostolique à Kinshasa dit de son côté avoir répertorié des tirs à balles réelles. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé aux autorités des enquêtes crédibles après la répression des manifestations dimanche en RDC. Il appelle à traduire les responsables en justice et exhorte les forces de sécurité à faire preuve de retenue et au respect des lieux de culte. De son côté, Michael Jean, secrétaire général de l'OIF, a condamné les violences et demandé qu'elles ne restent pas impunies. Cependant, elle a réaffirmé que la francophonie va poursuivre son soutien aux préparatifs d'élections prévues pour le 23 décembre 2018. Pour sa part, la nonciature apostolique à Kinshasa a rapporté hier avoir répertorié des tirs à balles réelles qui ont fait 6 morts, 60 blessés et 210 arrestations. De leur côté, les autorités parlent de 2 morts et de 9 policiers blessés. Le pape François s'est inquiété dimanche d'un nouvel épisode sanglant dans cette crise politique.
15 casques bleus tués en République démocratique du Congo en décembre, des attaques récurrentes au Mali et en Centrafrique. Les casques bleus, souvent mal préparés, sont de plus en plus pris pour cible, une tendance que l'ONU veut renverser malgré les obstacles politiques et financiers. Après des pointes dans les années 1960 et 1990, le nombre de morts violentes parmi les forces de maintien de la paix est reparti à la hausse en 2013. 195 personnes ont été tuées depuis 5 ans, dont 56 uniquement en 2010. 17, soit le bilan le plus lourd depuis 1994. C'est ce qui ressort d'un rapport d'experts remis en décembre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et rendu public hier.
En Afrique du Sud, le Congrès national africain au pouvoir a confirmé avoir discuté du départ anticipé du président Jacob Zuma. Cependant, aucune date butoir n'a été fixée. Abdourahmane Dia.
Le secrétaire général de l'ANC, Ace Magashule, a précisé lors d'une conférence de presse que le sujet d'un éventuel départ anticipé du président Zuma était entre les mains des responsables. Il y aura des discussions entre les responsables du parti, le président Zuma et le président du parti Cyril Ramaphosa. Il a ajouté qu'il n'y avait pas de décision prise pour renvoyer Jacob Zuma. « Donnez-nous du temps pour discuter de nos problèmes », a-t-il lancé aux journalistes. Ace Magashule, lui-même impliqué dans des affaires de corruption, a aussi indiqué que l'ANC était décidé à regagner la légitimité morale et que le parti était entré dans une nouvelle période de renouvellement. Fin décembre, Jacob Zuma a été remplacé à la tête de son parti par l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui avait fait de la lutte contre la corruption son leitmotiv de campagne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a signé la loi permettant la réouverture du gouvernement fédéral. Il met ainsi fin à un shutdown partiel de 3 jours provoqué par un bras de fer au Congrès entre républicains et démocrates sur l'immigration. Auparavant, le Sénat et la Chambre des représentants avaient tour à tour approuvé la loi qui assure le financement à court terme du gouvernement jusqu'au 8 février. Les précisions de Jacques Aristide.
Ce vote a été rendu possible par un accord conclu entre le chef de file de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et celui de la minorité démocrate, Chuck Schumer. Les démocrates insistaient à l'origine pour que toute loi prolongeant le financement de l'administration fédérale inclue une protection pour les jeunes migrants clandestins arrivés aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs et qui bénéficient pour quelques semaines encore d'un programme pour empêcher leur expulsion. Après l'accord avec McConnell, Schumer s'est dit confiant dans le fait qu'une loi protégeant les Dreamers pourrait être votée d'ici quelques semaines et obtiendrait les 60 voix sur 100 nécessaires au Sénat. Le premier shutdown de l'ère Trump aura donc duré 3 jours, le dernier qui remonte à 2013, sous l'administration du président démocrate Barack Obama, avait duré 16 jours.
Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a annoncé hier que le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem se fera avant fin 2019. Il s'adressait lundi à la Knesset, le Parlement israélien. Son patron, Donald Trump, a rompu avec une politique américaine vieille de plusieurs décennies sur la ville sainte, en reconnaissant Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu, ce qui lui a valu la colère des leaders palestiniens, dont le président Mahmoud Abbas, qui a déclaré que les États-Unis ne peuvent plus jouer un rôle dans le processus de paix au Moyen-Orient. Nous y reviendrons en seconde partie.
Des combats meurtriers ont opposé hier les forces turques aux combattants kurdes dans le nord de la Syrie, au 3e jour d'une offensive que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit déterminé à poursuivre. Baptisée Rameau d'Olivier, cette offensive vise à déloger la milice kurde syrienne des unités de protection du peuple, considérées par Ankara comme terroristes, de la région d'Afrin, frontalière de la Turquie. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni à ce sujet hier soir à l'appel de la France.
C'est dans une abondance d'optimisme que se rassemble à partir d'aujourd'hui à Davos l'élite mondiale, grande gagnante d'une reprise économique qui, fait-on remarquer, laisse une bonne partie de la planète à l'écart. La Maison-Blanche a confirmé hier la participation du président Donald Trump, qui avait semblé compromise par la crise budgétaire aux États-Unis, désormais résolue. Monsieur Trump doit prononcer un discours vendredi.
En Haïti, la marche organisée hier à Port-au-Prince en réponse aux propos insultants prêtés à M. Trump à l'endroit des pays africains du Salvador et d'Haïti a été une nouvelle occasion pour l'opposition de réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Plusieurs centaines de personnes ont répondu à l'appel de diverses organisations politiques et civiques d'Haïti et ont défilé dans la capitale. Drapeaux fièrement en main et pancartes au dessin ridiculisant le président américain, le mot d'ordre a majoritairement rassemblé les opposants traditionnels à Jovenel Moïse. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Aucun avion d'Air Algérie n'a décollé hier d'Alger. Les appareils ont été cloués au sol en raison d'une grève surprise des stewards et hôtesses. Les grévistes réclament le rétablissement d'un échéancier d'augmentation de salaire accepté en janvier 2017 par la précédente direction et gelé par son successeur. Les vols ont été signalés retardés, d'autres annulés à l'aéroport Ouari Boumediene. La Russie promet $1 milliard pour soutenir les entreprises russes désireuses d'investir au Ghana, mais aussi les entreprises ghanéennes qui souhaiteraient nouer des relations d'affaires en Russie. En décembre 2017, la compagnie russe GeoService Limited a annoncé 12,5 milliards de dollars dans le secteur ferroviaire au Ghana. Les échanges commerciaux entre le Ghana et la Fédération de Russie ont atteint un niveau record de $257 millions en 2016. Bientôt, un nouveau port sec en Éthiopie dans la ville industrielle de Dayadawa. Le coût est estimé à plus de $69 millions et devrait être opérationnel à la fin de cette année.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa, bonjour à tous.
CHAN 2018, les derniers matchs du groupe B hier.
En effet, à Casablanca, la finale du groupe entre les deux équipes déjà qualifiées, Namibie et Zambie, a accouché d'un match nul, un but partout. Ce sont les Chipolopolo qui terminent premier de ce groupe B. Ils affronteront le Soudan en quart de finale. La Namibie fera face au pays organisateur, le Maroc. À Marrakech, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontaient l'Ouganda dans la même situation. Un match sans enjeu, si ce n'est retrouver l'honneur. Eh bien, éléphants et cranes ont fait match nul 0-0. On rappelle que ces deux équipes sont éliminées. À défaut d'une victoire, Ibrahima Camara est satisfait du visage montré par les Ivoiriens.
L'idée qu'on avait, c'était de donner de l'espoir aux Ivoiriens. Donc on a mis tous les ingrédients qu'il fallait pour marquer. Malheureusement, on a pêché dans la finition. Je pense qu'on a progressé par rapport au match de la Zambie. Et à mon sens, si on continue de travailler comme on l'a fait, parce qu'on sent que plus la compétition avance, qu'on est resté un peu plus longtemps ensemble, commencer à sortir la tête, mais malheureusement, voilà, au bout de trois matchs, faut faire les valises. Je pense que on peut regarder l'horizon avec un petit peu d'espoir.
Ibrahima Camara, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. En face, son homologue pour les Ougandais savoure aussi de ne pas avoir encaissé une troisième défaite dans ce CHAN. On écoute Sébastien Desarbres.
Nous, l'important, c'était l'objectif du match. L'objectif du match, c'est de faire un bon match et de terminer devant la Côte d'Ivoire. C'était ça l'important, puisqu'on ne pouvait pas terminer ni premier ni deuxième du groupe. Donc, il y avait une troisième place à prendre. Et il fallait à la fois qu'on montre encore de bonnes choses dans le jeu collectif. On aurait préféré, c'est sûr, gagner le match, on joue toujours pour gagner. Tomber contre une bonne équipe de Côte d'Ivoire, je pense qu'on a fait largement jeu égal avec cette équipe. Et on aurait préféré gagner, mais on n'a pas pu concrétiser nos occasions.
Sébastien Desarbres, le sélectionneur de l'Ouganda.
Les matchs du groupe C ce mardi.
Et oui, tout reste à faire dans ce groupe où la Libye affronte le Rwanda pour une place en quart de finale et le Nigeria aura a priori partie facile contre la Guinée équatoriale. Amine Birouk est sur place pour VOA Afrique.
Le Nigeria a ce mardi la possibilité de passer le cap du premier tour du CHAN 2018. Pour atteindre cet objectif, les Super Eagles pourraient se contenter du match nul devant la Guinée équatoriale. Néanmoins, une victoire permettrait aux hommes de Salisu Youssouf de finir premier du groupe C. Poussifs devant le Rwanda lors de leur premier match, les Nigériens sont montés en puissance lors de leur deuxième sortie face à la Libye. Les Équato-Guinéens, quant à eux, ont fait preuve de progrès entre leur déroute devant les Chevaliers de la Méditerranée et leur match courageux face au Rwanda. Seront-ils capables de créer la surprise sur la pelouse du Grand Stade d'Agadir? Craqueront-ils face au coup de boutoir des coéquipiers de Falaye? Verdict ce mardi à partir de 19h30 en temps universel. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VOA Afrique.
Arsenal et Manchester United échangent deux joueurs.
Et oui, l'attaquant en vedette d'Arsenal, Alexis Sanchez, a officiellement rejoint Manchester United. Quant au milieu de terrain, Henrik Mkhitaryan, il faisait le chemin inverse hier soir. Annonce des deux clubs de Première Ligue. Selon la presse britannique, le nouveau contrat du Chilien avec Manchester United fera de lui le joueur le mieux payé d'Angleterre. Tenez-vous bien, chaque semaine, il touchera 566 000 euros salaire plus droit à l'image, et ce avant impôt. Quant à Mkhitaryan, il aura l'occasion de se relancer à Arsenal après un passage en demi-teinte à Old Trafford. Allez, Drissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Charlotte et Sacramento 112-107. Atlanta et Utah 104-90. Houston et Miami 99-90. Memphis et Philadelphie 105-101. Milwaukee et Phoenix 109-105. La Nouvelle-Orléans et Chicago 132-128.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Libéria, l'ancien footballeur George Weah a été investi président du Libéria, acclamé par plus de 35 000 personnes réunies au stade Samuel Doe. Il succède ainsi à Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente sur le continent africain. Raissa Girondin a joint Angèle Kouemo, stratège de la campagne de George Weah, pour revenir sur cette journée historique.
Premièrement, c'était les chefs d'État, les anciens chefs d'État, surtout les Ghana, Jerry Rowling, John Mahama, et puis le président Obasanjo, bien entendu, et le mouvement de femmes qui sont venues soutenir Madame la vice-présidente Joan Taylor. Mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que notait la présence d'une grande masse de jeunes. Le stade était rempli à craquer.
Vous avez parlé de beaucoup de jeunes autour du président Weah pour l'acclamer. Qu'est-ce que ce pouvoir va changer selon eux dans le pays?
Non, je pense que ces jeunes-là, ce sont la beauté de la démocratie. Ces jeunes-là s'identifient au président Weah. Et c'est en cela qu'il a pu vraiment captiver l'imagination de son peuple. Et je pense qu'à cause de son origine, on comprend un petit peu les choses de son peuple. Et puis je pense qu'il peut très bien apporter des solutions, ou au moins essayer. Il s'est engagé à faire de son mieux. Et vous connaissez bien le tempérament de M. Weah. C'est un homme qui est très courageux, très déterminé, très passionné pour l'avenir de son pays. Je pense qu'il va aussi s'entourer d'une équipe solide. Il est quelqu'un de très investi. Il a même invité les partis d'opposition, toutes les bonnes consciences libériennes, toutes les bonnes consciences africaines à contribuer aux prospérités de la nation en partant des acquis que l'ancienne présidente Ellen Johnson Sirleaf aura laissé.
George Weah a remercié, durant son discours, il a remercié plusieurs fois la présidente sortante. Symboliquement, qu'est-ce que ça signifie?
À mon avis, je pense que c'est un homme de l'avenir. Il ne veut pas regarder le passé. Pour lui, son élection, c'est la victoire du peuple libérien et la transition vers une nouvelle ère. Et ce n'est pas simplement un transfert de pouvoir pacifique, plus ou moins historique, parce que c'est la première fois que ça se fait en plus de 50 ans. Mais surtout, comme il a dit, c'est un transfert d'arrivée d'une nouvelle génération. Et ça veut dire qu'il y aura même un nouveau type de leadership. Les batailles politiques sont finies, la campagne est terminée, et maintenant il est compétent
de
l'acte.
Vous avez été donc à la base de la stratégie de la campagne de George Weah. Quels ont été les défis face à cette campagne?
Je pense qu'après sa troisième campagne, je pense qu'il a tiré les leçons de ses premières erreurs. Il a gagné en maturité. Et cette fois-ci, je pense que le peuple libérien, sa base, était plus ou moins responsable. Il était plus engagé, non seulement à obtenir la victoire, mais aussi à préserver la paix.
Angèle Kouemo, stratège de la campagne de George Weah. Cette ancienne star africaine du football, qui a séjourné et évolué un moment dans le pays des Lions indomptables, comme joueur du Sport Roi du Cameroun, où il n'a pas manqué de marquer les esprits des témoignages recueillis par notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Au quartier Cité Verte à Yaoundé, en face du centre commercial de ce logement social, se dressent les bâtiments du bloc C. C'est ici, au numéro 606, que George Weah avait été logé il y a 31 ans comme footballeur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Parmi ses voisins de l'époque, la famille Bessala, Ariette, la dame de la maison, n'a pas oublié son jeune voisin.
Quand Tonnerre gagne, nous sommes gâtés. Quand il a un trophée, puisque lui il avait même les trophées presque tout le temps. Les brasseries, les Guinness venaient décharger la boisson. Nous, on était en fête.
Maxwell était plus jeune en 1987 et habitait le quartier Cité Verte.
Ici avant c'était une cour et en même temps c'était un endroit où l'on pouvait jouer le ballon. Et il venait là avec ses autres coéquipiers chaque matin pour s'entraîner.
Le quartier Mvokada, non loin du centre-ville, est le fief de l'ex-club employeur au Cameroun du nouveau président libérien. Le sexagénaire Essomba, supporter du club, a vu Georges Weah évoluer dans les rangs du Tonnel Kalara Club.
C'est l'an footballeur. Je me rappelle quand le Tonnel était jouait en ce moment c'est la Champions League. Quand il jouait ça, c'était terrible. On était toujours sûr qu'il va lober.
Médecin de l'équipe du Tonnel de Yaoundé en 1988. Professeur Essomba est aujourd'hui le président du Tonnel. Nous l'avons rencontré sur le nouveau siège en construction du club. Georges Weah et lui ont noué d'excellents rapports.
Oui, Weah était un joueur exemplaire comme tout le reste. Il n'avait pas de prééminence sur les autres joueurs. Il était simple. Bien qu'il fût le meilleur joueur du Tonnel Kalara Club, Weah était d'une simplicité extrême. Et ça arrive qu'au moment où il est au Milan AC, je suis médecin aussi dans un hôpital à Milan. Et c'est comme ça que j'ai gardé de très bons rapports avec Weah. Je continuais à assister à ces matchs.
L'homme providentiel du passage de Georges Weah au Cameroun est Jean-Paul Akono.
Superviseur de Monaco qui sont venus pour Tato. Mais Claude Leroy leur a dit, j'étais aussi là. Donc il fallait absolument qu'il joue pour qu'il soit repéré, n'est-ce pas, par ses recruteurs monégasques. Il m'a dit, coach, vraiment, je ne te demande que 45 minutes. Et il s'est entraîné, je crois, à peine deux fois. Et je l'ai aligné à la fin de la première période et il a marqué deux buts d'anthologie.
C'est ici au stade Omnisports de Yaoundé que celui qu'on appelle aujourd'hui le président du Liberia, son excellence George Weah, a marqué les esprits du Cameroun. En 1988, d'une façon tout à fait particulière, il décrochait un contrat pour Monaco, un club qui va lui ouvrir les portes sur le plan international, jusqu'à devenir plus tard, après sa retraite, le chef de l'État du Liberia. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Congo-Brazzaville, les négociateurs de la paix, dont le POUL, ont appelé le gouvernement à lever les poursuites contre le pasteur Ntoumi, chef de la rébellion Ninja qui sévit dans cette région depuis avril 2016. Ces négociateurs ont par ailleurs demandé à Ntoumi de participer pleinement au retour de la paix dans cette région. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Nguela Ngoussou.
Cette première phase des négociations directes entre le gouvernement et les éléments du pasteur Ntoumi a consisté à baliser le chemin pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé en décembre dernier. Mais déjà, les 34 négociateurs ont souligné la nécessité de lever les poursuites contre le pasteur Ntoumi. Un extrait du communiqué publié à l'issue de ses travaux.
Il a été également retenu que l'implication du révérend pasteur Ntoumi est essentielle à la réussite de cette opération. À cette fin, la commission a proposé qu'il recouvre sa liberté de mouvement.
Dans le camp du pasteur Ntoumi, on note une réelle satisfaction de ce premier point marqué. Jean-Gustave Ntondo, représentant personnel du pasteur Ntoumi, a ses discussions.
Nous sommes satisfaits de la confiance qui va régner entre les deux parties. Nous avons demandé que tous les droits et toute la liberté du révérend pasteur Ntoumi lui soit restituée, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont claires.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme attire l'attention de l'opinion nationale pour que les crimes commis pendant cette crise du poule ne soient pas impunis. Trésor Ndila Kende est son directeur exécutif.
Cet accord ne peut pas être durable s'il consacre l'impunité. Déjà, l'accord lui-même, dans son contenu, il a un contenu très pauvre, un contenu qui ferme les yeux sur toutes les exactions qui sont commises dans le département du Poule. Il n'y a pas que nous qui sommes exprimés sur les violations des droits de l'homme dans le pool. Vous vous souvenez qu'il y a un rapport conjoint entre les Nations Unies et le gouvernement qui pointe également des exactions dans le pool.
Il faut des moyens financiers pour débuter la mise en œuvre de cet accord. Pour le colonel Pierre Mbongo, le chemin qui reste à parcourir est presque déjà connu.
Il reste maintenant à définir toutes les conditionnalités de sa mise en œuvre effective, notamment les conditions du ramassage des armes de guerre, du retour dans leur environnement familial de tous les ex-combattants qui étaient égarés ci et là. Naturellement, il s'agit aussi pour nous de redimensionner le dispositif sécuritaire dans le pool.
Dans le pool, on enregistre déjà la démobilisation de plusieurs ninjas actuellement cantonnés dans un centre de transit à Kinkala, Nguela Ngusu. Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Le vice-président américain Mike Pence a annoncé l'ouverture avant fin 2019 de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Monsieur Pence s'est exprimé hier devant la Knesset malgré la colère des Palestiniens suite à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Au même moment, le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, cherchait à Bruxelles à rallier le soutien européen. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris la chercheuse auprès de l'IRIS et auteure de Trump, La revanche de l'homme blanc, Marie-Cécile Nave.
Cette décision, elle est moins faite pour des raisons géopolitiques que pour des raisons de politique intérieure. C'est une décision qui obéit à une stratégie électorale de satisfaire les électeurs évangélistes qui ont voté pour lui à plus de 80% en novembre 2016, auquel Mike Pence appartient, puisqu'il est un chrétien évangéliste. Et ce sont des gens qui ont une vision très millénariste de la politique étrangère, qui s'appuie sur les mythes fondateurs des États-Unis, comme quoi les États-Unis sont la deuxième terre promise après Israël. Avec Pence comme avec Trump, dans le discours incantatoire, dans la surenchère verbale, qui n'engage à rien, mais qui remet en cause les équilibres régionaux et qui participe, je crois, d'une stratégie du chaos à l'international pour apparaître comme un pays combatif qui ne se laisse pas dominer par les réalités locales, mais qui impose sa manière de voir les choses, tout en n'ayant à long terme aucune stratégie géopolitique sur la résolution du conflit israélo-palestinien.
Mahmoud Abbas qui se retrouve au même moment à Bruxelles, quel est l'enjeu derrière ça?
Eh bien, Mahmoud Abbas cherche un autre médiateur, c'est-à-dire il a bien compris que ce n'était pas du côté des États-Unis qu'il fallait chercher un médiateur pour la paix, ça c'est clair et net, donc il cherche un autre médiateur, et comme l'Union européenne, et en particulier la France, sans doute qu'il s'est dit que ça pouvait être le médiateur potentiel idéal.
Jusqu'où cette question peut antagoniser les deux alliés?
Eh bien, si l'Union européenne affirmait de manière officielle, c'est-à-dire par la voix de Juncker, par exemple, ou par la voix de Merkel ou de Macron, qu'elle va jouer un rôle de médiateur au premier plan dans le conflit israélo-palestinien, ça serait vu sans doute par Donald Trump comme un affront. Et même si l'Union européenne a déjà dit par le passé qu'elle souhaitait la solution à deux États dans les frontières de 1967, avant la guerre des six jours.
Pourquoi il y a justement cette hésitation de ne pas reconnaître l'État palestinien au niveau des Européens?
C'est paradoxal parce que d'un côté, l'Union européenne s'est déjà engagée sur le fait qu'il devait y avoir deux États. Et parallèlement, l'Union européenne, elle est incapable de parler d'une seule voix. C'est pas uniquement sur ce sujet-là. Parce que les 28 États membres ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'elle a d'autres priorités pour l'instant, comme par exemple la question ukrainienne ou la lutte contre Daesh, et qu'on ne peut pas être sur tous les fronts.
C'était Marie-Cécile Nave, chercheuse auprès de l'IRIS à Paris.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un regard sur le premier anniversaire de l'arrivée à la Maison Blanche de Donald Trump. Une fête gâchée par un shutdown de 3 jours. Mais un an après, où en sommes-nous? Le président a-t-il changé les États-Unis? Le pays tire-t-il profit des relations diplomatiques et commerciales de l'ère Trump? Quid de l'Afrique après les récents propos jugés désobligeants prêtés au président? Et quels sont ses défis pour l'an 2? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
Bonjour,
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin ce mardi à 19h TU. Dans cette émission, Viviane Foura, entrepreneur sociale, partage son témoignage, celui d'une jeune fille ayant dû fuir son pays en guerre, se retrouver victime de violences sexuelles et porteuse du VIH-SIDA. Mère d'une petite fille de 5 ans, cette scientifique congolaise milite pour les droits des filles et des femmes au sein de divers organismes de prévention du SIDA et pour l'accès des femmes enceintes au traitement. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h, temps universel, sur VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Greg Burns. Merci à Arnold Woodson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.